Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Nous prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.
Saint Joseph, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, je suis en train de terminer les derniers fichiers en PDF des Pères de l'Église pour la fin de Saint-Jean. Tous les autres sont déjà sur le site. Je conseille beaucoup à ceux qui veulent travailler, aussi pour ceux qui écoutent par Internet. C'est une chose que je fais moi-même quand j'ai le temps pour préparer mes sermons. C'est le samedi soir, ou le samedi, avant la messe du dimanche, lisez sur le PDF la partie qui correspond à l'évangile du jour, du lendemain. Comme ça, vous avez, c'est pas très long, ça va vous prendre quoi, peut-être 10 minutes. Vous lisez les versets qui correspondent, il y a une dizaine de versets en général par évangile. Vous lisez les commentaires des Pères de l'Église qui correspondent au verset du dimanche, de l'évangile du jour du dimanche. Et vous verrez, ça aide énormément parce que ça donne à ce moment une vision complètement surnaturelle de l'évangile. Ce qu'il faut quoi, pour éviter, pour bien garder l'esprit d'église. C'est tout le drame actuellement, c'est que, on le voit très bien avec Bergoglio, la perte totale de l'esprit d'église. On met son esprit personnel au lieu de mettre l'esprit d'église. Alors, nous en sommes sur le fichier, donc le premier fichier de Saint Matthieu, page 40. Au chapitre 5, verset 17. Donc on devrait bientôt terminer le chapitre 5. Encore une fois, il faut, vous voyez, je pense que c'est très important dans l'esprit de l'Église, c'est-à-dire on met ces petites idées personnelles dans la poche, le mouchoir pour-dessus, puis on oublie quoi. Parce que le premier conseil que nous avait donné Mgr Lefebvre, ça m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé au séminaire, j'ai souvent déjà dit ça, mais une conférence spirituelle qu'il nous avait donnée, il nous avait dit ici, il n'y a pas de place pour les idées personnelles dans le séminaire. Vous avez des idées personnelles, vous pouvez avoir des idées personnelles sur la culture des haricots, sur la culture des épinards, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour tout le reste, dans l'esprit de l'Église, pour la théologie, la philosophie, tout ça, pas des idées personnelles, des idées de l'Église. Prenez des idées de l'Église. Et il nous disait, vous avez 5 ans pour vous former, pour vous, en quelque sorte, par osmose littéralement, d'arriver à capter en vous, dans votre âme, dans votre intelligence, dans votre volonté, l'esprit de l'Église, pour pouvoir après le retransmettre aux autres. C'est le but de la manœuvre. On se forme au séminaire pour pouvoir transmettre. Alors, nous en sommes à la page 40, chapitre 5, versets 17, 18 et 19. « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait ne disparaîtra pas de la loi, que tout ne soit accompli. Celui qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera les hommes à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui fera et enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc, de quelle loi notre Seigneur Jésus-Christ parle-t-il là? On sait qu'il y a donc plusieurs lois. La première des lois, c'est évidemment la loi naturelle. La loi naturelle, c'est une loi qui est inscrite dans notre âme et qui est donc lisible, avec plus ou moins de clarté, par tout homme. C'est-à-dire on est homme. Donc, cette loi naturelle est inscrite dans notre nature, c'est pour ça qu'on l'appelle loi naturelle. Donc, il n'y a pas besoin d'être catholique pour comprendre la loi naturelle. Ça, c'est très important à rappeler aujourd'hui plus que jamais, parce que justement, on arrive à une telle, une telle influence du démon que le démon, non content d'avoir détruit la nature, maintenant passe à un degré encore inférieur, en quelque sorte, dans la révolution. Il va passer à une révolution contre nature. Contre nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la destruction de la loi naturelle. La loi naturelle disparaît dans l'esprit des gens, alors qu'avant, elle existait même chez les païens. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'on n'a pas le droit de mentir, qu'on n'a pas le droit de voler, qu'on n'a pas le droit de tuer sa grand-mère ou n'importe qui d'autre. On sait que c'est inscrit dans notre nature, d'où le nom de loi naturelle. On dit que la loi naturelle, c'est l'application, naturellement parlant, dans notre nature humaine, de la loi des 10 commandements de Dieu. Alors, ici, notre Seigneur Jésus-Christ parle de la loi, il parle surtout de la loi. La première loi, qui était donc la loi, ce qu'on appelle la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la loi des 10 commandements de Dieu. Bon. La loi des 10 commandements de Dieu va rester jusqu'à la fin des temps. Bon. Mais cette loi des 10 commandements de Dieu, donc, qui a été transmise à Moïse, au mont Sinaï, elle va être sublimée, en quelque sorte, par une nouvelle loi, qui est la loi de la grâce. La loi de la grâce, c'est la loi des commandements de Dieu qui vont être, si vous voulez, non pas améliorés, parce que la loi des commandements de Dieu ne change pas, mais encore une fois, vont être dépassés par la grâce sanctifiante. Donc la loi de la grâce, c'est la loi qui correspond au Nouveau Testament. Donc la loi ancienne, c'est la loi de l'Ancien Testament. La loi ancienne reste pour le Nouveau Testament, mais se rajoute une loi, une lumière nouvelle, qui est la lumière de la grâce. Et ceci va amener à la lumière de la gloire au ciel. Donc, ce que disent ici les pères, donc il y a trois sortes de lois. La première, c'est celle des Hébreux. Vous avez ça à page 40, vous pouvez les copier. Celle des Hébreux, que saint Paul appelle la loi du péché, la loi de la mort. Ensuite, la loi des gentils, ce qu'il appelle la loi naturelle. Et ensuite, la loi de vérité, appelée par saint Paul la loi de l'esprit de vie. Bon, il y a plusieurs façons d'expliquer tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est ça. La loi naturelle demeure. Bon. Aujourd'hui, on en arrive à un tel degré de corruption morale, si vous voulez, que c'est la loi naturelle qui n'est plus visible dans l'esprit des gens. On voit par exemple, moi ça m'a frappé en voyant certaines images, par exemple, des tous les jeunes, ces imbéciles de jeunes Irlandais qui sont sortis dans la rue juste après que l'Irlande ait passé la loi de la mort avec l'acceptation de l'avortement. Et ces milliers, dizaines de milliers de jeunes qui sortaient dans la rue tout en exultant parce que c'est magnifique, extraordinaire, avec la nouvelle loi de la liberté, une maman a maintenant le droit de tuer son fils, son enfant. Vous voyez ? Quand on arrive à des trucs comme ça, on en arrive à des lois contre nature. C'est la contre nature qui a pris la place de la nature. Et ça, il faut faire très attention à ça parce que lorsque la contre nature passe dans une intelligence, elle va tordre la nature. Une fois que la nature est tordue, pratiquement pas irréparable. Tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Et disons qu'on explique comme ça, c'est quand un arbre pousse de travers, vous voyez, on peut le redresser, mais il restera à la partie de travers au début. Vous voyez. Donc il faut vraiment. Il y a, avec la grâce du bon Dieu, il y a des conversions. Moi, j'ai connu des tas de conversions de gens qui, avec la grâce du bon Dieu, sont complètement convertis et qui avaient des problèmes de vice contre nature. Donc tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Souvent, il faut savoir ça, c'est qu'il est capital aujourd'hui de rappeler aux gens la loi naturelle. Hein? Donc, tu ne mentiras pas, par exemple. Je me rappelle une première retraite que j'ai donnée aux États-Unis. Il y avait un jeune avocat qui venait passer son barreau de New York, qui était là. Il m'a dit, mais monsieur l'abbé, il a commencé à plaider. Il m'a dit, mais monsieur l'abbé, dans les cours de justice américaine, je suppose qu'en France c'est pareil, tout le monde ment, tout le monde. Depuis les juges, les attornés, les avocats, tous les différents niveaux de la loi américaine, tout le monde, bon, tous, sans exception. Eh bien, il m'a dit, mais si je mens pas, je perds tous mes procès. Il a dû changer de boulot. Mais quand on en arrive à des degrés comme ça, on voit très bien en France, c'est ça, la nature a sauté maintenant, c'est la surnature qui arrive. Et donc on considère que l'avortement c'est plus un péché, que on peut vivre avec que deux femmes peuvent vivre ensemble ou deux hommes peuvent vivre ensemble, il n'y a plus de péché, que chacun peut choisir son sexe, c'est pas le bon Dieu qui va décider si je suis un homme ou une femme, et que c'est moi-même qui vais décider ces choses-là. Tout ça, c'est l'abolition de la loi naturelle. Okay. Alors, n'oublions pas la grande règle de saint Thomas d'Aquin, la grâce ne détruit pas la nature. Donc, pour que la grâce puisse travailler, c'est ça le drame. C'est comme ça que travaille le démon, il faut bien le comprendre. Le démon passe dans la contre-nature. Et une fois qu'on est passé dans la contre-nature, la grâce ne peut plus travailler. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la grâce ne détruit pas la nature, elle l'élève. Donc, il faut qu'il y ait la nature. Si on est en contre-nature, plus de place pour la grâce. Plus de place pour la grâce. Donc, il faut commencer par la grâce du bon Dieu à remettre la nature, la loi naturelle en place, et après, la grâce pourra travailler. Bon. Ceci dit, heureusement, le bon Dieu est maître de la nature et peut faire des miracles. J'ai vu des conversions extraordinaires de gens qui sont convertis avec la grâce du bon Dieu. De situations très très pécamineuses. Donc il faut bien comprendre cela. Hein. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera les hommes à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Donc faire attention aussi, il y a aussi une tendance qu'on trouve qui vient du modernisme, qui consiste à dire, donc il y a deux façons de dire ça, qui consiste à dire il faut distinguer les dogmes importants et les dogmes secondaires. Et donc, l'important, on peut s'unir avec d'autres églises à condition qu'on soit d'accord sur les dogmes importants, les dogmes secondaires, bon ben tant pis, on fait une croix dessus. Il n'y a pas de dogme important, de dogme secondaire. Pourquoi ? C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si je nie ce qu'on appelle dans le monde moderne un dogme secondaire, comme tous les dogmes viennent de Dieu, si je nie un dogme secondaire, ça veut dire que Dieu s'est trompé sur une petite chose. Si Dieu s'est trompé sur une petite chose, donc il n'est pas Dieu. Que Dieu soit trompé sur une petite chose ou sur une grande chose, si Dieu se trompe sur une petite chose ou sur une grande chose, dans les deux cas, il n'est pas Dieu. Et là, c'est pareil avec les commandements. Il y a une tendance qu'on voit maintenant, parfois même chez certains de nos fidèles, qui veulent distinguer les commandements importants puis les commandements secondaires. Donc il y a des commandements qui ne sont pas si importants que ça, donc on peut passer dessus. Par exemple, on voit parfois souvent des catholiques qui pensent, par exemple, que le mensonge, ce n'est pas si grave que ça. En plus de ça, une autre chose qui se rajoute à ce que je viens de dire, c'est que beaucoup de gens finissent par penser que, puisque tout le monde pense comme ça maintenant, les choses doivent être comme ça. Vous voyez, tout le monde accepte, pense que le mensonge n'est pas grave, donc le mensonge n'est pas grave. Le mensonge reste grave. Vous voyez, le mensonge reste grave. Moi, je le vois, c'est triste à dire, mais je pense que c'est des choses qu'il faut bien réaliser, surtout pour les parents qui m'écoutent. Sur Internet, de remettre la loi naturelle dans les hommes, parce que je vois très souvent quand les gens, quand j'étais dans la fraternité Saint-Félix, c'était très fréquent, des gens qui demandent un conseil, par exemple, des jeunes qui demandent un conseil. Monsieur l'abbé, je voudrais faire telle chose. C'est un péché mortel ou un péché véniel ? Le simple fait qu'ils posent la question comme ça, c'est qu'ils savent déjà que c'est un péché. Et je réponds pas, parce que si je réponds, c'est un péché véniel, je vois le gars qui se retrouve, ah bon, voilà, donc je peux le faire. Donc il faut répondre, c'est un péché. C'est véniel ou mortel ? Que ça soit véniel ou mortel, c'est un péché, donc ça ne se fait pas, c'est tout. Encore une fois, cette nouvelle façon de penser est maintenant passée dans les mœurs, ce qui fait que les gens considèrent qu'un péché véniel, c'est pas si grave que ça, puisque c'est véniel, ça n'enlève pas la grâce du bon Dieu, donc on peut le commettre. Vous voyez ? Je donne toujours comme comparaison deux époux qui, imaginez un époux qui se disent, bon, je vais faire une petite offense à ma femme, bon, c'est pas très très grave, donc c'est qu'une offense vénielle, bon, tant pis, ben, je fais une offense vénielle contre ma femme, ça veut dire que vous ne l'aimez plus. Ben, c'est pareil avec le bon Dieu, si quelqu'un est capable de faire de propos délibérés des péchés véniels contre le bon Dieu, en sachant très bien que ça ne plaît pas au bon Dieu, c'est qu'il n'aime plus le bon Dieu. Et donc maintenant, il faut revenir vraiment à ça. On arrive à avoir de plus en plus devant nous des gens qui ont dépassé la loi naturelle dans descente, si vous voulez. Et donc, il faut d'abord remettre la loi naturelle dans les esprits. Mais je vois par exemple, l'exemple type qu'on peut donner, malheureusement, c'est l'avortement. Bon, l'avortement, avant, il y a encore, je ne sais pas, il y a encore, quand j'étais jeune prêtre, c'est encore 20 ou 30 ans, je me rappelle, 35 ans, eh bien, toutes les femmes savaient, même si elles étaient pour l'avortement pour des raisons, parce qu'elles avaient perdu la foi, elles savaient que l'avortement, c'était comme quelque chose de grave. Maintenant, les mentalités ont complètement changé. Vous avez des femmes qui sont persuadées que l'avortement, c'est plus grave du tout. C'est quelque chose d'absolument... Moi, je pensais naïvement que c'était pas possible pour une femme de faire un avortement sans savoir qu'elle faisait quelque chose d'abominable dans son cœur. Et malheureusement maintenant, comme la loi naturelle a sauté, on finit par avoir des femmes qui ont dépassé complètement, qui ont perdu complètement la loi naturelle, et donc qui vont finir par considérer que un avortement, bon, c'est rien, quoi. C'est comme se couper les cheveux, se couper les ongles. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ insiste. Mais, donc, en vérité, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que passe au ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait ne disparaîtra pas de la loi que tout ne soit accompli. Notre Seigneur ne nous dit pas, attention, la loi ancienne est terminée. Avec, n'oubliez pas qu'au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le rideau du temps va se déchirer en deux. Donc c'est la fin de l'Ancien Testament, le début de la loi nouvelle. Mais ce n'est pas la disparition de l'Ancien Testament. Okay? Encore une fois, il faut faire attention à ça, parce qu'on a certaines personnes qui parlent de l'Ancien Testament avec une espèce de tel mépris pour l'Ancien Testament qu'on a l'impression qu'il y a deux dieux, le dieu de l'Ancien Testament et le dieu du Nouveau Testament. Ils ne réalisent pas que c'est le même. C'est le même, c'est que dans l'Ancien Testament, les hommes n'étaient pas encore capables de comprendre un certain nombre de choses, et donc Dieu est passé par toute une série d'images, et avec le Nouveau Testament, l'image va lentement laisser la place à la réalité des choses. Par exemple, prenez des passages de l'Ancien Testament comme la Pâque juive. La Pâque juive, bon, qui rappelait que les Hébreux avaient quitté l'Égypte où ils étaient maintenus en esclavage. Donc, ils vont prendre un agneau, ils vont prendre le sang de l'agneau, ils vont badigeonner les pourtours de la porte avec le sang de l'agneau pour que l'ange exterminateur qui va venir pour exterminer tous les premiers-nés d'Égypte ne tue pas l'enfant de la maison des Hébreux, mais uniquement les Égyptiens. Bon, tous les Hébreux savaient ça. Ils ne savaient pas encore que ce sang de l'agneau représentait un autre agneau qui allait arriver beaucoup plus tard, à savoir l'agneau divin. Et que donc c'est le symbole du baptême, le passage de la mer rouge, c'est le symbole du baptême. Le sang de l'agneau représente le sang du sacrifice de la messe. Et donc personne ne pouvait deviner au cours de l'Ancien Testament que le sang de l'agneau qui badigeonnait le pourtour des portes allait représenter un jour un sang d'un autre agneau, l'agneau divin, qui allait arriver plus tard. Bon. Mais avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, les apôtres ont expliqué, voilà, c'est là l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Non pas que notre Seigneur Jésus-Christ va prouver cette divinité de deux manières, d'abord par le miracle, mais aussi et surtout par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament que tous les Hébreux connaissaient par cœur. Hein. Donc, celui, dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui violera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera les hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Okay? Ça, là, on touche au péché de scandale. Hein. Péché de scandale, c'est ça, c'est par son exemple, détruire la foi des petits, détruire la foi des gens qui sont sous notre charge, et rien de plus grave. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ a des paroles très très dures à cause du scandale, en disant qu'il vaut mieux pour quelqu'un qui est responsable d'un péché de scandale d'être jeté à la mer avec une meule de moulin autour de sa tête, autour de son cou, que d'être responsable d'un péché de scandale. Vous voyez? Donc, celui qui au contraire fera et enseignera la loi de Dieu, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Hein? Donc, il y a un commentaire des pères là, en bas de la page 40 qui est intéressant. Dans ses paroles, il sera appelé le dernier dans le royaume des cieux. Il ne faut voir autre chose que le supplice de la damnation éternelle. Donc, il ne faut pas comprendre. Il sera appelé le dernier dans le royaume des cieux comme quelqu'un qui est au paradis, mais à la dernière place. Notre Seigneur Jésus-Christ, ici, quand il parle du dernier dans le royaume des cieux, ça veut dire celui qui ne sera pas, en fait, dans le royaume des cieux, ce qu'expliquent les pères. Il ne faut voir autre chose que la supplice de la damnation éternelle. En effet, dans le langage ordinaire du Sauveur, le royaume des cieux ne signifie pas simplement la jouissance du bonheur éternel, mais le temps de la résurrection, l'avènement terrible du Christ. Donc, le royaume des cieux, dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église, c'est le royaume des cieux après la mort. Donc, le royaume des cieux, ici, ça veut dire passage d'une éternité à une autre. Du temps à l'éternité. Passage du temps ici-bas à l'éternité, après la mort. Mais l'éternité, il y en a deux. Il y a une éternité de malheur, une éternité de bonheur. Donc, c'est passage dans l'éternité, bonne ou mauvaise. Donc, il ne faut pas interpréter le royaume des cieux comme étant le paradis. Là, ce n'est pas le cas. D'accord ? Le royaume des cieux ne signifie donc pas seulement la jouissance du bonheur éternel, mais le temps de la résurrection et l'avènement terrible du Christ. Autre explication, c'est que la science du maître ne fut-il esclave que d'une faute légère, le fait descendre de la place élevée qu'il occupait. C'est qu'il ne sert de rien d'enseigner la justice si on détruit en même temps la moindre faute. si on la détruit en même temps par la moindre faute. C'est qu'on est souverainement heureux qu'en traduisant dans sa conduite les enseignements qu'on donne aux autres. Hein, rappelez-vous la formule « médecin, soigne-toi toi-même ». Donc, on retrouve encore une fois une grande sentence de saint Thomas d'Aquin, « personne ne peut donner ce qu'il n'a pas ». Donc, si je ne donne pas l'exemple à ma façon de vivre, ben, je risque pas de convertir qui que ce soit. Page 41. Non. Donc, conséquence, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il faut être fidèle dans les plus petites choses, on dit, il n'y a pas un seul iota qui va disparaître dans la loi. Le iota, c'était la plus petite lettre de l'alphabet grec. Hein, plus petite lettre de l'alphabet grec. Et pour nous montrer que des choses qui apparaissent comme ayant peu d'importance devant Dieu sont en fait des choses d'importance, parce que même si je trahis notre Seigneur Jésus-Christ par une petite chose, eh bien, je suis déjà un traître, quel que soit le motif de ma trahison. Donc, nécessité pour le docteur c'est celui qui enseigne, d'examiner sa conscience devant Dieu, page 41 en haut, avant de prêcher, pour être sûr d'être pauvre en esprit et plein de douceur, pour vérifier s'il est attaché au monde ou au Christ, et pour pouvoir dire avec saint Paul, si je cherche à plaire aux hommes, je ne puis être serviteur du Christ. Donc il y a, c'est mademoiselle Colette qui disait ça, j'aime bien sa formule, elle disait, il y a, pour tous ceux qui sont en charge d'âme, elle parlait surtout aux parents, il faut trois choses dans l'éducation, disait-elle, la douceur, la force et les convictions. Et là, notre Seigneur en parle. La douceur, parce que par la brutalité, on n'obtient rien du tout. La force, parce que par la faiblesse, on casse tout. Et il y a manqué l'essentiel, il n'y a plus de colonne vertébrale, et en même temps les convictions. Donc il faut à la fois la douceur et la force. S'il y a la douceur sans la force, c'est la faiblesse. S'il y a la force sans la douceur, c'est la cruauté. Donc il faut un alliage, une alliance entre la douceur et la force, mais il faut rajouter les convictions. Ajouter les convictions, parce que si on n'est pas convaincu de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas faire passer le message de notre Seigneur Jésus-Christ si on n'est pas convaincu qu'il est l'unique vrai Dieu. Oui. Et ces convictions sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires. Combien de fois on nous dit, par exemple, quand on discute un petit peu avec des petits groupes de gens qui sont plus habitués à entendre certaines choses, mais combien de fois j'ai entendu ça, par exemple, dans les rares cas où on a dans nos églises, dans nos chapelles, des gens qui ne sont pas catholiques, qui ont complètement perdu la foi. On les a dans deux cas, les mariages et l'enterrement. C'est tout. Alors les mariages, bon, c'est peut-être pas trop le moment, hein, pour un jour de mariage, de faire des grandes déclarations sur des dogmes de foi qui sont importants. Mais donc on ne peut pas forcément dire certaines choses au mariage. On parle du mariage, mais on ne va pas parler de grandes déclarations sur l'enfer et la mort éternelle. Par contre, aux enterrements, c'est le moment. Et combien de fois j'ai vu ça, il suffit que, en général, je divise toujours mes sermons d'enterrement en deux parties. Première partie sur la miséricorde, je commence toujours par la miséricorde, et après, deuxième partie sur la justice. Et souvent, on a des gens qui viennent nous voir, qui sont des gens qui ne pratiquent plus ou qui sont dans la nouvelle église, qui viennent nous voir, je dis, et pour qui vous prenez? Vous avez osé dire qu'hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut, pour qui vous prenez-vous? Je me prends pour un prêtre catholique, c'est tout. Vous dire, par contre, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Chacun est libre. Ben non, on n'est pas libre. Et ça, c'est très très difficile d'arriver à rattraper ces choses-là. Et il y a certains dogmes de foi, comme hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Ben, c'est pas tellement évident, je veux dire, rappeler ces choses pourtant qui sont le béaba de la foi catholique aux gens modernes. Donc il faut arriver à trouver coupler ces trois choses, la douceur et la force ensemble, pour arriver aux convictions. C'est tout le travail d'éducation, pas seulement l'éducation des parents, des enfants par leurs parents, mais aussi une certaine forme de travail d'éducation qu'on doit faire dans l'église pour ceux qui ont charge d'âme dans l'église, donc les prêtres et les évêques bien sûr. Il faut arriver à associer cette douceur et cette force pour arriver aux convictions. C'est ça qui m'a le plus frappé chez Mgr Lefebvre. Quand j'ai entendu Mgr Lefebvre pour la première fois, j'ai entendu au congrès de Lausanne en 71-72, je ne suis pas encore rentré à l'école, et ça m'a frappé à la fois cette association de douceur et de force chez Mgr. Mgr Lefebvre était capable d'avoir à la fois un don de force extraordinaire pour rappeler les grandes vérités, mais la façon dont il les rappelait, il les faisait avec douceur. Vous voyez, c'était la goutte d'huile pour à mettre dans les rouages. Hein. Passons au verset 20 à 22. Car je vous dis que si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne tuerez point. Et celui qui tuera méritera d'être condamné en jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère méritera d'être condamné en jugement. Et celui qui dira à son frère Raca méritera d'être condamné par le conseil. Celui qui lui dira fou méritera d'être condamné au feu de la gêne. Donc, et là, on voit encore la nécessité de la douceur. Même dans les contacts avec des gens qui sont peut-être fort loin du bon Dieu, la douceur est souvent la goutte d'huile, si vous voulez, qui permet à certaines âmes de commencer à écouter un petit peu ce qu'on leur dit. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ici explique que ces commandements nouveaux qu'il est en train de leur donner, il va bientôt expliquer dans le serment sur la montagne, donc il va expliquer justement la loi de la charité, et qu'il explique que la loi de charité va en quelque sorte transcender complètement les lois de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc les commandements de Moïse, disent les pères, délivrent bien de la peine portée contre les transgresseurs de la loi, mais ils ne peuvent introduire dans le royaume des cieux. Tandis que mes commandements délivrent du châtiment et tout à la fois donnent entrée dans le royaume des cieux. Donc là, une petite note historique ici, donnée par les... Je ne sais plus où j'ai trouvé ça, sur les différentes cours de justice qu'il y avait chez les juifs. Donc notre Seigneur Jésus-Christ parle de la justice qui était donné par les anciens. Donc il y avait plusieurs cours de justice, il y en avait trois essentielles. La première, disent les pères d'église, c'était les procès d'argent, très important pour les juifs, din mamona, ça s'appelait, qui était présidé par trois juges. Ensuite, il y avait la din misfat, c'était le nom, misfat, je ne sais pas comment on prononce, cours de jugement pour les offenses capitales, entre autres les cas d'assassinat, était examiné là devant 23 juges. Et en fait, le Sanhédrin, devant 72 juges, qui jugeaient les causes hérésies de faux prophètes, d'idolâtrie et d'apostasie. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de sa passion, va être jugé précisément par le Sanhédrin, parce que pour les juifs, il se prétendait Dieu, et donc c'était une cause d'idolâtrie, littéralement d'hérésie. Pour eux, c'était une hérésie pour un homme de se comparer à Dieu. Donc il a été jugé par le Sanhédrin. Ensuite, versets 23 et 24. Si donc vous présentez votre offrande à l'autel et que là vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande devant l'autel. Allez d'abord vous réconcilier avec votre frère et ensuite vous reviendrez présenter votre offrande. Alors ça c'est un conseil tout à fait actuel pour les catholiques. Il faudrait littéralement que les fidèles qui viennent à la messe, que ce soit en semaine ou en corpus le dimanche, littéralement laissent à la porte d'entrée de la chapelle dehors un petit peu tous leurs problèmes personnels, tous leurs problèmes de personnes avec des personnes différentes, les problèmes de colère, de haine contre des personnes, pour justement pouvoir se présenter à l'autel. Sans avoir ces idées de haine dans l'esprit. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours possible. Je me rappelle dans certaines chapelles, mais des cas, par exemple, où une personne n'ira pas s'asseoir à tel endroit dans la chapelle parce qu'elle ne veut pas être à côté de telle autre personne qu'elle ne veut pas voir en peinture. Oui. Enfin, ça, on en arrive à des choses ahurissantes. Si vous ne voulez pas vous asseoir à côté d'une personne que vous n'aimez pas, à la chapelle, comment pouvez-vous obtenir le pardon du bon Dieu, hein? Donc là, il faut quand même faire attention à ça. Monseigneur Lefebvre nous disait que quand il était en Afrique, ce qu'il avait le plus frappé, c'était que les péchés dans la brousse, surtout au Côte d'Ivoire et au Gabon, où là où il était, il nous disait les péchés les plus profonds, c'était les péchés de haine. Péchés de haine. Les autres péchés étaient importants, mais c'était surtout les péchés de haine qui étaient transmis de génération en génération. C'est-à-dire, c'était terrible. Parce que c'est une éducation qu'ils donnent aux enfants, et ils apprenaient à leurs enfants à haïr une autre tribu, haïr une autre, une autre famille dans la même tribu, parce qu'il y a, y a trois générations, il y avait la grand-mère qui était morte, donc c'était que l'autre tribu avait lancé un sort par l'intermédiaire de son sorcier contre la grand-mère en question, et okay, donc il fallait haïr la, l'autre tribu, et à la première occasion, entendre le coup une personne de l'autre tribu. Oui. On arrivait à des choses absolument ahurissantes, justement parce que cette haine est très très difficilement déracinable. Bon, c'est pas à ce degré-là en France, mais on arrive quand même à avoir des gens dans les familles, c'est terrible, on se rend compte que certaines personnes ne se parlent plus depuis parfois des années, ils ne se parlent plus parce que ben, il y a eu un problème il y a 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, je ne sais pas. Et du coup, ils gardent cette haine. Et il faut bien se rappeler que ce conseil de notre Seigneur Jésus-Christ, laissez votre offrande. Si vous avez, souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, donc c'est pas simplement si vous avez quelque chose contre vos frères, mais si vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez-la votre offrande, allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, et ensuite vous reviendrez présenter votre offrande. On a des notes des pères qui sont très importantes. Dieu ne veut donc pas recevoir le sacrifice des chrétiens divisés entre eux. Jugez de là quel grand mal est la discorde, puisqu'elle force Dieu de rejeter le moyen qu'il nous a donné pour effacer nos péchés. Revenez, ceux qui ont le temps, reprenez les cours sur saint Thomas d'Aquin que je suis en train de donner. Justement, on a parlé tout ça, où saint Thomas va en parler avec les péchés contre la, on a vu tout ça, avec les péchés contre la charité, la discorde, etc. Ainsi, nous pouvons entendre spirituellement l'autel de la foi. Car quelque offrande que nous puissions faire à Dieu, science, prière ou toute autre chose, elle ne peut lui être agréable sans avoir la foi pour appui. Donc il faut la foi qui est l'appui. L'appui de quoi? L'appui de la charité. Donc la foi mène à la charité. Donc si j'arrive à la messe dominicale simplement avec la foi, mais que je ne veux pas de la charité qui doit accompagner la foi, à ce moment-là, il manque quelque chose d'essentiel. Donc arriver à pratiquer cette charité, ça fait un mal dans les milieux de la tradition absolument incroyable. Dans certaines chapelles mondaines, quand j'ai la fraternité, je me rappelle, surtout en France, c'est un problème typiquement français ça. Heureusement, il n'y a pratiquement pas ça dans d'autres pays, ou très peu. Il n'y a pas de problème de mondanité dans les chapelles, par exemple, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Ça n'existe pas trop. Mais par contre, en France, c'était terrible, quoi. Problème de mondanité dans les chapelles et qui empêchait les cœurs de s'ouvrir parce que les gens avaient des idées mondaines. Les idées mondaines, c'est des idées qui sont opposées à celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, hein, le monde est ennemi de Dieu. Et bien, quand on avait ces éléments mondains dans les chapelles, on n'a rien, on peut plus rien faire, quoi. Je me rappelle un cas, je donne un exemple très précis d'une personne que je connaissais bien. Donc il y avait sa fille, venait d'avoir un enfant, et était assez malade, et donc la maman de la fille, donc la grand-mère, et elle me demandait si je pouvais trouver quelqu'un dans la chapelle qui puisse aider un petit peu pour aider la maman, quoi, qui était complètement débordée. Et j'ai trouvé quelqu'un, une fille en or que je connaissais bien dans la chapelle, je lui ai demandé, elle était tout à fait d'accord. Donc je suis allé voir la grand-mère, je lui ai dit, écoutez, je vous ai trouvé quelqu'un, c'est un tel. Elle m'a coupé net, elle m'a dit, mais vous n'y pensez pas, monsieur l'abbé, nous ne sommes pas du même milieu. Et je lui ai dit, oh, je suis parti, débrouillez-vous. Hein. Mais vous voyez, quand on en arrive à des choses comme ça, hein, c'est des idées de ce genre qui cassent complètement l'esprit de charité. Cassent complètement l'esprit de charité, vous voyez. Et on voyait aussi ça dans certaines chapelles où pratiquement les adultes, un peu aussi les jeunes dans certains milieux, ne se retrouvaient que dans leur milieu. Vous voyez ? Bon, qu'on ait une certaine facilité à être dans les gens de notre milieu, c'est tout à fait normal. Monseigneur Lefebvre me disait, vous ne serez à l'aise que dans votre milieu, ce qui est vrai. Mais cependant, on a quand même le devoir d'État de parler avec tout le monde, vous voyez. Et je me rappelle les dégâts provoqués par certains fidèles qui ne se rendaient absolument pas compte de ce qu'ils faisaient quand un nouveau fidèle arrivait. Et dans certaines chapelles, où ils se réjouissaient parce qu'un nouveau fidèle arrivait, eh bien, les gens le regardaient de travers en disant, qu'est-ce que vous faites là, vous venez d'où? Et puis on commençait à voir les gens qui parlaient entre eux, c'est sans doute un espion envoyé par la fraternité Saint-Pierre ou je ne sais pas trop qui. Et puis la personne se retrouvait complètement isolée, vous voyez. Et je voyais les fidèles, par exemple, qui sortaient, on se retrouvait après sur le parvis, et des gens qui ne parlaient jamais avec d'autres personnes. Et des petits groupes qui se formaient, on se parlait simplement dans le groupe. Et ça, c'est pas bon, vous voyez, c'est le manque de charité, là, la charité ouvre les cœurs, hein, mais le manque de charité ferme les cœurs. Alors là, attention, et cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours vraie. Bon, qu'on ait, si vous voulez, de l'antipathie ou de la sympathie pour quelque chose, ça c'est, ou pour quelqu'un, c'est autre chose. C'est des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Je m'entends bien avec telle personne, j'aime bien telle personne, l'autre personne, j'aime pas beaucoup dans la chapelle. Bon, ça, tant que ça reste dans votre cœur, c'est pas un péché. Non, parce que parfois, il est vrai que telle personne m'est profondément antipathique. Mais ne le montrez pas. Vous avez quand même le devoir d'État. Votre devoir, c'est d'aller parler un petit peu avec tout le monde à la fin de la chapelle. À la fin de la messe, moi, je m'obligeais, quand je sortais des messes dans lesquelles j'avais célébré, à parler un petit peu avec tout le monde dans après la chapelle, sur le parvis. C'était pas facile. Mais, vous voyez, donc, il faut remettre cet esprit de charité. Hein. Ici, c'est une toute petite chapelle, il n'y a pas de problème entre nous, mais vous voyez, si on commence à avoir ce manque de charité, à ce moment-là, le bon Dieu passe plus, la grâce du bon Dieu passe plus. Hein. Alors ça, c'est des choses typiquement françaises. Dans d'autres chapelles, j'en peux une chapelle, j'aurais pas de nom, mais d'autres chapelles où les gens... Se ranger par groupes sociaux, c'était terrible. Et il y avait des groupes, certains petits groupes qui se formaient, par exemple, c'était que des monsieur, madame de quelque chose, vous voyez. Et avec des titres de noblesse qui étaient d'ailleurs la plupart du temps, 9 fois sur 10, qui n'étaient pas des véritables titres de noblesse, c'était des titres de noblesse d'argent, de noblesse de sang, quoi. Il y a la vraie noblesse et puis il y a la fausse noblesse, vous voyez. Alors... des gens qui se font appeler par des titres auxquels ils n'ont absolument pas le droit, et des choses ahurissantes. J'ai dû faire parfois des remarques, parce que, par exemple, toute la famille de telle personne, d'une famille qui se prétendait noble, se faisait appeler Monsieur le Marquis, par exemple. Et puis, je disais, mais attendez, excusez-moi, il y a des lois pour les nobilités en France, il faut peut-être les suivre dans la tradition, puisque vous êtes traditionnaliste, suivez ces lois. D'abord, vous avez le droit de porter le titre de votre père exclusivement après sa mort et pas avant. Première règle. Deuxième règle, vous avez le droit de porter le titre de votre père que si vous êtes l'aîné de famille et pas les autres. Alors, parfois, il y avait 5-6 enfants, le père était encore vivant, et puis tout le monde s'appelait avec le titre du père. Et puis, il fallait dire bonjour monsieur le marquis, bonjour madame la marquise, hein. Sinon, c'était pas content. On arrivait à des situations qui bloquaient la vertu de charité. La vertu de charité ne pouvait pas passer. Bon, ça, par exemple, c'est des choses qui n'existent pas dans d'autres pays, heureusement. Il y a d'autres problèmes. Ailleurs. Mais je pense que c'est très important d'avoir cet esprit de charité. Vous voyez je me permets de faire une petite remarque là, qui me semble importante. Enfin, ici, on n'a pas de problème, mais à cause des gens qui m'écoutent sur Internet, vous voyez, le racisme en tant que tel est condamné par l'Église. Attention, vous n'avez pas le droit d'être contre quelqu'un à cause de sa race. On a le droit de se protéger contre des gens qui peuvent faire du dommage à notre famille spirituelle, c'est autre chose. D'accord ? Mais on n'a pas le droit, par exemple, de mépriser quelqu'un parce qu'il est d'une race différente que la nôtre. Je me rappelle une chapelle où un monsieur noir est arrivé, deux cas, la même chapelle, un monsieur noir est arrivé, c'est un étudiant, il est arrivé pour la première fois, il fallait voir comment il était reçu par les gens, la famille, les gens dans la chapelle, mais c'était ahurissant, quoi. Tout le monde le regardait comme ça, je fais d'ici, monsieur. Et une autre dame noire qui est arrivée aussi, elle est venue à deux messes, trois messes, elle est partie en courant, vous voyez. Et moi je faisais exprès, quand je les voyais en sortant de la chapelle, j'allais leur parler. Mais ils se rendaient bien compte, ils n'étaient pas fous, que le seul qui leur parlait, c'était moi. Et voyez, alors, là, il faut faire attention. Je pense que ce conseil de notre Seigneur Jésus-Christ est un conseil qui est toujours très actuel. Pratiquons la vertu de charité. Attention, avec bon sens. Bon, Bon, Dieu ne vous demande pas d'aller ouvrir la porte, encore une fois, à tous les migrants qui, déjà du pauvre monde, qui essaient de rentrer chez nous. Il faut du bon sens. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord ? Mais en même temps, pratiquer la vertu de charité avec des gens qui, naturellement, vous seraient antipathiques. Ça vous, on ne vous oblige pas de les recevoir chez vous, on ne vous oblige pas de vous donner des grandes tables dans le dos. Non, ce n'est pas ça. Mais avoir cette vertu de charité qui permet de faire passer la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Là, il y a des textes des pères qui sont très beaux en bas de la page 41. Si donc vous vous êtes rendu coupable de quelque offense envers votre frère, il vous faut aller au-devant de la réconciliation. Non par les pas du corps, mais par l'élan du cœur, disent les pères. C'est là que vous devez vous prosterner aux pieds de votre frère dans un profond sentiment d'humilité en présence de celui à qui vous devez offrir votre sacrifice. Et c'est ainsi qu'en agissant en toute sincérité, vous pourrez apaiser votre frère et lui demander votre pardon comme s'il était présent. Vous reviendrez ensuite, c'est-à-dire vous ramènerez votre intention sur l'œuvre que vous aviez commencée et vous offrirez votre sacrifice. Vous voyez ? Donc le sacrifice, c'est aussi le sacrifice de sa volonté propre. Hein. Ce n'est pas simplement des sacrifices purement extérieurs.
Oui, mais il faut quand même aller le voir, comment abandonner le frère.
Oui, bien sûr.
Direct,
bien sûr. Je veux dire. Bien sûr, c'est sûr. Mais il faut du bon sens dans la pratique de cette vertu de charité. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait vraiment que dans nos chapelles, le groupe, si vous voulez, de fidèles soit vraiment comme une famille. J'ai connu des familles, des chapelles comme ça. J'ai connu des chapelles dans lesquelles vraiment c'était la famille. C'est extraordinaire, j'ai eu quelques chapelles comme ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Je me rappelle très bien, une chapelle entre autres au nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada, on avait une chapelle où c'était comme ça, quoi. Il y avait 70-80 personnes dans la messe le dimanche, mais à la fin de la messe, tout le monde se réunissait à côté de la chapelle. La chapelle était sur une propriété privée qui appartenait à des agriculteurs, et bien ils recevaient dans leur maison. C'est ce qu'ils appelaient coffee and donuts, c'est-à-dire une tasse de café et puis des petits gâteaux. Et tout le monde venait, c'était la rencontre systématique. Ça, c'était le bon côté des Américains. Dans toutes les chapelles américaines, c'était comme ça, c'est une tradition. Et je pense que ça se fait aussi dans les chapelles de l'Église nouvelle. La plupart des chapelles étaient construites au rez-de-chaussée, et en dessous, il y avait une espèce de grande pièce en sous-sol, qui était à peu près la taille de la chapelle. Et c'était la tradition, après les messes, tout le monde descendait dans la salle en sous-sol, et là, il y avait ce qu'ils appelaient coffee and donuts, le café et le petit gâteau, et tout le monde se réunissait là. Comme les gens venaient en général de très loin, donc les gens pique-niquaient ensemble si c'était nécessaire, ou quand ils ne faisaient pas beau, par exemple, et le prêtre descendait, même s'il avait une autre messe à assurer, il pouvait descendre, en quelques minutes, il voyait un peu tout le monde. Et ça, c'était excellent. Ça fait énormément de bien dans les chapelles, que ça permettait de maintenir un esprit de famille, surtout pour des gens qui faisaient parfois 3-4 heures de route hein, pour venir à la messe. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins de... C'était il y a longtemps, donc il n'y avait pas encore beaucoup de messes. Parfois, des gens, des familles faisaient 3-4 heures de route pour venir à la messe. Et donc, c'était une sortie toute la journée. Donc, ils venaient, et confession, communion, la messe, bien sûr. Et puis après, tout le monde restait. Et puis les gens restaient pendant plusieurs heures à parler ensemble, discuter ensemble s'il faisait beau. Il y avait un esprit de famille, et c'était la formule de l'évangile qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble. Vous voyez ? Et quand il y a cet esprit dans les chapelles, quelqu'un qui vient, j'ai connu des chapelles comme ça, eh bien se sent immédiatement accepté. Alors ça aide énormément pour la pratique de la foi catholique. Et au contraire, malheureusement, j'ai connu des chapelles où alors c'était le mépris, le mépris presque ouvert envers la personne nouvelle qui venait, parce que c'est une espèce d'esprit complètement faux qui consiste à dire que on est une chapelle, il faut construire un mur autour de la chapelle et surtout empêcher les gens d'extérieur de venir dans la chapelle. Voilà, quand on se protège entre nous, c'est pas du tout l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il faut au contraire ouvrir les chapelles dans le bon sens, avec prudence bien sûr, pour que les gens d'extérieur puissent venir. Hein? Donc, notre Seigneur explique, verset 25, en bas de la page 41, « Accordez-vous plutôt avec votre adversaire pendant que vous êtes en chemin avec lui, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge et que le juge ne vous livre au ministre de la justice et que vous ne soyez mis en prison. En vérité, je vous le dis, vous ne sortirez pas de là que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. » Alors, rappelez-vous la phrase de l'évangile. Donc, la charité couvre la multitude des péchés. Nous paierons donc jusqu'à la dernière obole si, à l'aide de cette divine charité, nous n'acquittons pas les dettes de nos péchés. Tout homme donc qui, pendant cette vie, ne se sera pas réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, sera livré par lui au juge, c'est-à-dire au Fils à qui le Père a donné tout jugement. On voit bien ça dans plusieurs passages de l'Écriture sainte, dans les évangiles, surtout par exemple celui des invités à la noce. Donc le père de famille vient pour les noces et puis il voit une personne qui n'a pas l'habit de noce. Et il dit, mais mon ami, pourquoi n'avez-vous pas l'habit de noces? Qu'est-ce que c'est que cet habit de noces? Tous les pères interprètent de la même façon, l'habit de noces, c'est l'habit de la charité. Vous n'avez pas la charité, vous n'avez pas votre cœur ouvert à la grâce, eh bien, il est renvoyé et jeté dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. L'évangile. Il ne nous reste plus qu'à voir, page 42, dans cet adversaire, le commandement de Dieu, qui se montre contraire à ceux qui veulent pécher. Ce commandement nous a été donné pour nous diriger dans le chemin de la vie. Il ne faut point tarder à nous accorder avec lui en le lisant, en l'écoutant avec attention, en lui donnant sur nous une souveraine autorité. Si nous comprenons en partie ce précepte, nous ne devons pas le haïr parce qu'il est contraire à nos péchés, mais nous devons l'en aimer davantage parce qu'il nous fait rentrer dans le devoir et prier Dieu de nous révéler ce qui lui reste d'obscur pour nous. Donc avoir cette exquise charité, même dans les... Surtout, je dirais, cette exquise charité avec les gens qui viennent pour la première fois. On rappelle le nombre de catastrophes qui ont été faites dans certaines chapelles, parce que si une femme venait pour la première fois dans la chapelle qui n'avait pas de voile, il y avait toujours une dame un peu acariâtre de la paroisse qui allait chercher un voile à l'entrée de la chapelle. Il y a une boîte avec des voiles, avec des lentilles pour les femmes, et puis qui venait les mettre sur le bout du nez en disant « il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça ». Je ne sais pas combien de fois j'aurais dit « ne faites jamais ça, laissez les choses se faire toutes seules ». Vous dites rien, la femme vient pour la première fois, regarde autour, tiens ici tout le monde est en robe, ici tout le monde est en... toutes les femmes ont quelque chose sur la chapelle, bon, la prochaine fois je viendrai quelque chose, et ça se fait tout seul. Elles reviennent, et puis elles s'habillent correctement, parce qu'elles ont vu que dans la chapelle c'était différent. Par contre, si on lui fait une remarque, surtout une remarque un peu acerbe, comme ça, à ce moment-là, elles partent et on ne les voit plus jamais. Alors je dis toujours aux dames de la paroisse, laissez-moi faire le travail. C'est-à-dire, si, moi je dis rien au début, une fois, deux fois, trois fois, si au bout de trois, quatre dimanches, elle continue de venir sans voile, à ce moment-là, je vais lui dire quelque chose. Mais c'est à moi de le faire, pas vous. Alors ici, il y a une phrase après, page 42, numéro, versets 27 et 28, une phrase extrêmement importante. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc c'est un syllogisme, si vous voulez, qu'on peut établir comme ça. Celui qui aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Mineur, c'est ce qu'on appelle la majeure. La mineure, c'est la phrase de saint Paul, les adultères ne posséderont point le droit du royaume des cieux. Conclusion, celui qui aura regardé une femme pour la convoiter n'aura pas part au royaume des cieux. Et là, il faut faire très attention parce que ici, notre Seigneur Jésus-Christ fait allusion au péché par pensée qui peuvent être, même s'il n'y a pas d'action, si vous voulez, à partir du moment où l'intention est déjà mauvaise, il peut y avoir des fautes très graves qui sont commises. Alors là, il faut faire attention aussi, parce que souvent, les jeunes, ils sont un peu perdus là-dedans. Et ils me disent, monsieur l'abbé, enfin, c'est des exemples que je donne pour expliquer. Et monsieur l'abbé, j'ai vu une jeune fille dans la rue, j'ai trouvé qu'elle était très jolie. C'est un péché grave, mais c'est pas un péché du tout. Vous avez vu une jeune fille qui est très jolie dans la rue, le bon Dieu ne vous demande pas de trouver qu'elle était morte, de décider qu'elle était moche, puisqu'elle était très jolie. C'est du bon sens. C'est pas un péché. Vous rencontrez une jolie fille dans la rue, cette fille est vraiment mignonne. Bon, et puis on passe à autre chose. Aucun péché, même pas un péché véniel. Le péché véniel, c'est quoi? Le péché mortel, je veux dire, c'est quoi? C'est d'accepter une mauvaise pensée dans la cervelle, dans l'esprit, de rester sur cette pensée et d'accueillir encore la pensée. À ce moment-là, oui, il y a faute. D'accord? Ce que dit notre Seigneur ici. Il y a quelques explications des pères. Par la fornication, par les débordements du libertinage, vous dégradez l'image de Dieu que vous portez en vous-même. Rappelez-vous les phrases qui disent dans l'Écriture sainte, en Saint Paul, entre autres, que notre âme est le temple du Saint-Esprit. Et malheur à celui qui dégrade son temple. Ainsi, le Seigneur, qui sait ce qui vous est utile, vous commande de ne point laisser écrouler sous les coups dissolvants des voluptés criminelles son temple qu'il a commencé d'élever dans votre âme. Les phrases des pères qui sont extraordinaires. Donc Dieu nous commande de ne pas laisser couler sous les coups du soulevant des voluptés criminelles son temple qu'il a commencé d'élever dans votre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre âme est le temple de Dieu. Bon. Notre âme est le temple de Dieu, et de faire entrer dans le temple de Dieu une chose impure, c'est bien plus grave que de faire entrer dans une chose profane une mauvaise pensée. Et celui donc qui, à la vue d'une femme, sent un mauvais désir effleurer son âme, éprouve les premières atteintes de la passion. S'il donne son consentement, la passion naissante se change en passion consommée. Ce n'est pas la volonté de péché qui manque à cet homme, c'est l'occasion. Donc trois choses concourent à la consommation du péché: suggestion, délectation, consentement. Donc, vous avez une mauvaise pensée, on a une mauvaise pensée qui passe dans notre âme. Bon. Et puis, on la rejette tout de suite, il n'y a aucune faute. Il y a une mauvaise pensée qui passe dans notre âme, on joue un petit peu avec la pensée pendant quelques secondes, et puis on dit non, je ne peux pas accepter ça, c'est péché véniel, pas plus. Mais on peut, si on accepte complètement la pensée en essayant de trouver une délectation dans cette pensée, sur une chose criminelle qu'on n'a absolument pas le droit de faire, alors là, il y a faute grave. Donc, trois étapes, nous disent les pères: suggestion, délectation, consentement. Donc, les démons commencent par introduire la suggestion, c'est-à-dire qu'ils amènent la mauvaise pensée à la porte de l'âme, pour qu'il y ait délectation, et la délectation entraîne le consentement. Donc, pour qu'il y ait faute grave, il faut qu'il y ait déjà la délectation. Il peut y avoir délectation, il y a déjà une certaine forme d'acquiescement. Là, il peut déjà y avoir faute grave. Hein. Rappelez-vous aussi les trois conditions du péché grave. Hein. Le catéchisme, j'ai un peu l'occasion là de revenir sur ces choses qui sont importantes. Matière grave, peine connaissance, peine consentement. Hein. Ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire qu'il faut ces trois conditions pour qu'il faut de grâce. Ça veut dire l'action que je veux commettre est interdite par la loi de Dieu. Je veux dire, l'action que je veux commettre est une chose importante. Ce n'est pas un détail, c'est une chose importante, ce qu'on appelle la matière grave. L'action que je veux commettre est interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché mortel. C'est la connaissance. Ça fait rien, je le fais quand même, consentement. Et c'est ça. Donc il faut vraiment les trois conditions pour qu'il faut de grâce. Donc, la chose est importante, je sais que la chose est importante et interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché grave, ça fait rien, je le fais quand même. Matière grave, connaissance, consentement. Et il peut y avoir des cas, moi j'ai vu ça très souvent, c'est faire attention dans les jugements qu'on porte, il peut y avoir des cas où des personnes ont commis des fautes qui étaient matériellement graves, mais formellement qui n'étaient pas graves, parce que la personne n'avait pas la connaissance. L'exemple typique que je donne comme exemple, c'est le cas des nouveaux paroissiens qui viennent de l'église de Vatican II, dans lequel on leur a monté la tête à l'envers, littéralement, à cause des mauvais conseils qu'ils ont reçus. Un exemple, imaginez une femme, une mère de famille, ou une femme, une épouse, qui vient de l'église nouvelle, et dans laquelle on lui a dit pendant des années et des années que la pilule n'était pas un péché. Donc elle a pris la pilule anticonceptionnelle pendant des années, persuadée que ce n'était pas un péché. Un beau jour, elle débarque à la retraite, et là, elle ouvre les yeux d'un seul coup, avec les examens de conscience, avec les conférences de retraite et tout ça, elle ouvre les yeux d'un seul coup, elle se rend compte qu'il y a faute grave. Donc elle vient voir en panique, en me disant, monsieur Lebé, moi j'ai pris la pilule pendant 20 ans, je ne savais pas que c'était une faute grave. Et je leur dis toujours, si vous aviez su à l'époque que c'était une faute grave et que c'était interdit par l'Église sous peine de péché mortel, est-ce que vous auriez pris la pilule? Ah bien sûr que non, je l'ai prise parce que le curé m'a dit que c'était que j'avais le droit de le faire. À ce moment, il n'y a pas de faute grave pour la femme. Il y a faute grave pour le prêtre. Le prêtre qui l'a conseillé. Vous voyez? Donc, il faut bien faire attention à ça. Il faut les trois choses. Connaissance, consentement, matière grave, connaissance, consentement. Et connaissance, c'est savoir que l'action est interdite par la loi de Dieu sous peine de péché mortel. Donc là, il y a des phrases aussi, je pense que ça c'est Tertullien qui dit ça. Si une femme de son côté se pare avec dans l'intention d'attirer sur elle les regards des hommes, elle se rend digne de châtiments éternels alors même qu'elle n'eût blessé personne de ses funestes coups. En effet, elle a composé du poison quoiqu'elle n'ait trouvé personne pour le boire. Ce que Jésus-Christ dit aux hommes, il le dit également aux femmes, car en parlant au chef, il s'adresse aussi à tout le corps. Bon, évidemment qu'il faut du bon sens pour interpréter tout cela. Souvent, il y a beaucoup de confusion au niveau des esprits sur ces domaines de ce genre. J'en parle un peu parce que notre Seigneur ici en parle dans l'Évangile, quoi. Il faut encore une fois juger en fonction de l'intention. On juge une faute d'abord par la fin. Quelle est l'intention? Souvent, les gens, les jeunes filles nous demandent, mais monsieur l'abbé, est-ce que c'est une faute de se maquiller? Non, en soi, c'est pas une faute de se maquiller. Tout dépend pourquoi vous vous maquillez. Il y a une fille qui me dit, monsieur, moi je me maquille parce que je suis moche par nature et que je me mets la poudre sur le bout du nez parce que je suis blanche, blanche comme un navet, tout le monde se fiche de moi, alors je mets un peu de rouge pour me sentir à peu près correct dans mon lieu de travail ou avec les gens que je côtoie. Est-ce qu'il y a une faute? Aucune. Pas de faute, même pas venir. Bon. Madame sort avec son mari pour faire plaisir à son mari, se met du rouge à lèvres ou des trucs de ce genre. Est-ce qu'il y a faute? Aucune faute. D'accord? Si une personne, une jeune fille sort avec l'intention d'attirer les hommes, alors là c'est autre chose. La fin commence à devenir immorale. Si la fin est immorale, c'est la fin qui va tuer l'intention. C'est la fin qui va tuer complètement l'intention. Parce que là, si la personne se maquille avec l'intention d'attirer les hommes, encore une fois, il faut distinguer les choses. Souvent, il y a que faute vénielle. Si elle a l'intention d'attirer les hommes pour une fin criminelle, il y a faute grave. Et si une femme, personne qui est mariée ou une personne qui n'est pas mariée se maquille avec l'intention d'attirer, ou par son maquillage ou par sa façon de s'habiller, d'attirer la femme du l'époux du voisin, la voisine, pardon, l'époux de la voisine, à ce moment il y a faute grave. Mais donc, avant de juger les choses, il faut bien comprendre qu'une même action peut être une faute grave pour quelqu'un, une faute vénielle pour quelqu'un d'autre, et pas de faute du tout pour une troisième personne. Oui. Parce que là, il faut juger, ton juge, c'est ce qu'on fait au confessionnal, il faut juger en fonction des circonstances. Et certaines circonstances peuvent changer l'espèce du péché. Oui. Par exemple, des fautes peuvent complètement changer en fonction de la connaissance que les personnes ont du péché. Par exemple, l'âge, ça intervient. Si vous voulez, vous voulez 5 euros ou une pièce de 2 euros, c'est pas une faute grave pour un adulte. Mais un gamin de 5 ans qui prend une pièce de 2 euros dans le portefeuille de sa mère, dans bien des cas, comment savoir si c'est une faute grave ou non? L'enfant me dit, monsieur l'abbé, j'ai volé 2 euros dans le sac de ma mère. Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais poser comme question à l'enfant? Il dit, 2 euros pour vous, c'est beaucoup, non? Observez, c'est beaucoup d'argent, 2 euros. Donc il y a faute grave pour lui. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a matière grave. Et si c'est ce qu'il fait, il peut y avoir faute grave pour un enfant de 5 ans. Et surtout s'il le fait de façon répétée, en sachant très bien qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Moi, j'ai eu des cas d'enfants, une petite fille, je suis en dehors de la confessionnelle, pour ça que je peux en parler, une petite fille, qui avait donc la maman ou ses papas, je crois, la maman faisait le ménage dans la chambre de la petite, et puis elle ouvre le tiroir de la petite qui avait 5 ans et trouve une pièce de, je sais pas, c'était l'équivalent de 2 euros dans soigneusement cachée sous les vêtements. Alors comme elle savait très bien que la petite n'avait pas accès à de l'argent, elle lui pose des questions, dire mais d'où ça vient cet argent, d'où ça vient cet argent? Et elle a refusé de répondre à sa mère. Elle a accusé son frère d'avoir volé l'argent, d'avoir mis l'argent dans son tiroir pour la faire accuser. Il n'a pas voulu pas pouvoir démordre. Hein. Il a fallu des jours et des jours pour qu'elle finisse par avouer la vérité. Et dans un cas comme ça, là, il peut y avoir faute grave pour un enfant. Il ne faut pas oublier qu'il y a il y a trois pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Albert le Grand, je crois que c'était, et Saint Alphonse de Ligorie, qui ont vu dans un songe un enfant de 5 ans en enfer. Bon, bien sûr, c'est des exceptions, parce que normalement, un enfant de 5 ans n'a pas encore l'âge de raison. Cependant, dans le cas que je viens de vous expliquer, c'est un cas où l'enfant a parfaitement compris ce qu'il faisait. Et donc il faut faire attention à ne pas dire oh, c'est des péchés d'enfant, donc il n'y a jamais de péché grave. Dans une famille normalement constituée, il y a peu de péchés graves chez les enfants, mais ça peut arriver, notamment pour les choses comme ça. Entre autres pour les mensonges. Les enfants qui sont capables de mentir, et pour faire gronder, accusant le frère ou la petite sœur d'avoir fait quelque chose de grave dans la maison, d'avoir cassé par exemple un objet précieux, et qui ne veut pas reconnaître la chose. J'ai eu des cas d'enfants de 5-6 ans qui ont menti pendant des mois avant de finir par reconnaître que c'était eux qui avaient fait le coup. Et les parents le savaient, ils me disaient, monsieur l'abbé, nous savons très bien que c'est elle qui l'a fait, ça peut être qu'elle qui l'a fait le coup, elle ne veut pas le reconnaître, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est assez délicat, dans plusieurs cas, j'ai dû dire à un parent, s'il est absolument certain de ce que vous dites, il faut lui conseiller de ne pas communier. Et parfois, la petite ou le petit a menti pendant des mois sur une chose de ce genre. Vous voyez, donc, comme quoi le démon se met facilement, s'insinue même dans les âmes des enfants. Hein. Alors, verset 29, ça c'est un des versets, je vais finir par celui-là. C'est un des versets les plus importants de l'Écriture sainte. Hein. Si votre œil droit vous scandalise, verset 29, page 42, arrachez-le, jetez-le loin de vous, car il vaut mieux pour vous qu'un de vos membres périsse que si tout votre cœur était jeté dans la gêne. Si votre main droite vous scandalise, coupez-la, jetez-la loin de vous, car il vaut mieux pour vous qu'un de vos membres périsse que si tout votre corps allait dans la gêne. Ça, c'est l'image du scandale, hein, du scandale, c'est-à-dire que si une créature autour de moi me pousse au péché, je dois me couper de cette créature, dans la mesure où c'est possible. Rappelez-vous, c'est en toute lettre dans le début des exercices Saint-Ignace, hein, ces principes et fondements. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme, et après, Saint-Ignace va expliquer justement, tiens, j'ai le texte là. Saint Ignace, donc dans le principe et fondement, explique ça. J'ai retrouvé le passage. Dès le début, il en parle. Hein. Voilà ce qu'il dit. Les autres choses qui sont sur la terre, c'est donc toutes les créatures, sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin, qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Ce que dit notre Seigneur là. Si une créature autour de moi me scandalise, c'est-à-dire me pousse au péché, c'est la définition de scandale. Le scandale, dans le terme, si votre œil droit vous scandalise, qu'est-ce que ça veut dire ce mot scandale? Scandaliser quelqu'un, c'est pousser l'autre au péché. Donc si mon œil droit me pousse au péché, si ma main droite me pousse au péché, et si mon pied droit me pousse au péché, eh bien, je dois faire quelque chose. Bon, évidemment, il ne faut pas le prendre au sens physique du terme. Donc si telle créature autour de moi me pousse au péché, eh bien, je coupe, parce que si je reste dans une occasion de péché, je joue avec le feu. Ce qu'on appelle les occasions de péché. Donc, il faut bien sûr distinguer les choses. Toutes les occasions ne sont pas à mettre exactement au même niveau, mais la grande règle, c'est si je garde une occasion prochaine volontaire de péché mortel, il y a déjà faute grave. Une occasion prochaine volontaire de péché mortel, donc c'est une distinction à faire, que je vais rappeler rapidement la doctrine, c'est des choses qu'on explique bien aux exercices Saint-Ignace, quand on prépare les confessions, donc une occasion, c'est une circonstance qui nous pousse au péché, c'est ça une occasion. Donc elle peut être prochaine ou éloignée, prochaine ça veut dire que je vais tomber presque à tous les coups si je me mets dans telle occasion, éloignée ça veut dire normalement j'évite facilement ce problème, après elle doit être aussi... volontaire ou nécessaire. Une occasion nécessaire, c'est une occasion qu'on ne peut pas enlever, parce que ça fait partie de notre devoir d'État. Bon, un policier qui est envoyé par ses supérieurs pour surveiller une plage, et je sais pas quoi, surveiller la plage pour qu'il n'y ait pas de bagarre dans les plages, je ne sais pas quoi en été, mais évidemment, il va être exposé à des tentations, bon, ce qu'on appelle une occasion nécessaire. Bon, le bon Dieu donnera les grâces. Une occasion volontaire, au contraire, c'est une qu'on va chercher directement, en quelque sorte, on fait guili-guili sous le nez du démon pour se faire croquer. Donc la règle, c'est la suivante. Si je garde dans ma vie une occasion prochaine volontaire de péché grave, c'est déjà une faute grave en tant que telle. Hein? Donc là, il faut faire attention. Hein? Donc de même que l'œil, on va finir cette page 42, ça on va avancer un peu. De même que l'œil est la figure de la contemplation, la main la figure de l'action. La main droite représente donc l'ami qui nous aide dans les choses spirituelles, la main gauche celui qui nous prête son concours dans les choses de la vie présente. Donc cet œil du corps est le miroir de l'œil intérieur. Le corps a aussi un sens qui lui est propre, c'est l'œil gauche. C'est les symboles donnés par les pères pour les deux mots de droite et gauche. Les facultés de l'âme sont désignées par la droite parce que l'âme a été créée avec le libre arbitre et sous la loi de justice pour juger et se conduire avec droiture. Le corps qui n'a pas de liberté en partage et qui est sous la loi du péché nous est représenté par la main gauche. Donc dans l'esprit, si vous voulez, des pères de l'Église, la droite représente le bien, la gauche représente le mal. D'accord ? Autre interprétation, l'œil droit, c'est la vie contemplative. Donc la main droite figure les bonnes œuvres ou la vie active. Dans le texte de Père en bas de la page 42, on peut dire encore que l'œil droit, c'est la vie contemplative, qui peut devenir un objet scandale, soit en nous jetant dans la paresse ou dans l'orgueil, soit parce que notre faiblesse nous empêche de nous élever jusqu'à la pure vérité. La main droite figure les bonnes œuvres ou la vie active, qui peut nous scandaliser en nous faisant tomber dans le piège que nous tend la fréquentation du monde et l'ennui des occupations. Que celui donc qui ne peut goûter les bienfaits de la vie contemplative ne se laisse pas gagner par la langueur au milieu de la vie active, dans la crainte qu'en se livrant aux occupations extérieures, il laisse dessécher la douceur intérieure de son âme. Vous voyez ces phrases magnifiques des pères, ils avaient une façon de parler beaucoup plus élégante que la nôtre. Alors, donc on verra un petit peu tout ça la prochaine fois. Donc, prochain cours, si Dieu veut, dans une semaine. Alors, on a aujourd'hui le... Le 7, non ?
Le 5.
Ah, c'est le mardi aujourd'hui, le 5. Oui, c'est ça, non ?
Oui,
le 5. 5 mai. 5 juin, pardon. Alors, on va dire une petite prière pour terminer le cours. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pédis, Saint Joseph,
priez pour nous.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.